France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
480 millions d'euros par saison. C'est la somme que déboursera Canal+ pour les droits télévisuels de la Ligue des Champions de football entre 2024 et 2027. Signe d'une commercialisation à outrance, mais aussi de la prépondérance de l'image dans l'économie et la consommation du football. Regarder un match de football à la télévision ou sur un écran géant, dans un bar ou chez soi, tel est le rituel pratiqué par des millions, voire des milliards de personnes sur la planète tout entière. La communion est visuelle avant tout. On peine d'ailleurs lors des grands rassemblements à entendre les commentateurs, dont les voix sont noyées dans l'effervescence populaire, les chants et les exclamations. Impossible aujourd'hui d'imaginer le football sans l'image. N'est-ce pas là que réside la beauté du football? Comment l'apprécier si on ne peut pas s'extasier devant une reprise de volée, un contrôle orienté ou un contre-pied dévastateur? De plus, avec l'avènement des smartphones et de la connexion Internet généralisée, il devient quasiment impossible de ne pas pouvoir regarder un match. Même ceux et celles qui refusent de s'abonner à l'épuisante abondance de chaînes sportives réussissent à tout regarder illégalement, par le truchement des sites de streaming ou autres pirouettes techniques. Pourtant, cette prépondérance de l'image dans le football n'est apparue que récemment. Si le téléviseur fait une entrée fracassante dans les foyers français dans les années 60, la radio a longtemps été le vecteur de diffusion privilégié du football. La démocratisation de la télévision représente un véritable changement de paradigme pour la consommation du sport, qui fut tellement puissant et révolutionnaire que l'on peine désormais à s'imaginer une autre façon de suivre son équipe préférée. Ce numéro de rétro d'Arnaud Laporte, intitulé « Le football sans l'image » et diffusé pour la première fois le 14 juin 1992, vise justement à faire revivre l'émotion si particulière qu'a menée la radiodiffusion du football, qui, si elle existe encore aujourd'hui, est beaucoup moins répandue. Entre extraits de matchs internationaux et bribes d'entretien, c'est un parfum de nostalgie qui se dégage de cette émission. Si le passage du son à l'image a permis un accès plus direct de chacun et chacune au football, la subjectivité presque poétique qui caractérisait auparavant la diffusion du football s'est perdue. Le commentateur regardait le match pour tout le monde, opérait une forme d'alchimie verbale, transformant l'action en mots, le mouvement en émotion. Rétro, le football sans l'image, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
Rétro.
Rétro. Football sans l'image. Les grands matchs de football, nous ne le savons hélas que trop, peuvent entraîner des tragédies. Mais à l'heure où s'ouvre le championnat d'Europe des nations, nous préférerons nous souvenir du temps où l'on se rassemblait autour des postes de radio pour suivre les matchs. Leçon numéro 1, quel intérêt y a-t-il à disputer une Coupe du Monde ?
La Coupe du Monde de football, quel magique ensemble de mots. La Coupe du Monde de football, qu'est-ce que cela représente? C'est une épreuve qui réunit les 16 meilleures nations du monde parmi celles qui en ont disputé les éliminatoires et qui désigne, à la suite de différentes rencontres, la meilleure équipe nationale, celle qui pendant 4 ans portera le titre de championne du monde. La Coupe du Monde de football, c'est aussi un objet d'art en or massif, dû à un artiste qui n'avait d'ailleurs d'artiste que le nom, car la coupe, comme tous les trophées sportifs, est laide, même très laide. Mais pour toutes les équipes, peu importe l'objet, ce qui compte, c'est d'être meilleur que l'adversaire.
1938, la France se prépare à accueillir les épreuves de la Coupe du Monde.
Le tirage au sort pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de football a eu lieu dans le salon de l'horloge au Quai d'Orsay, en présence de tous les délégués étrangers.
Cet après-midi au Quai d'Orsay, en présence de M. François de Testan, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, de M. Courson, sous-secrétaire d'État aux sports et loisirs, de M. Rimet, président de la Fédération internationale de football, et des délégués étrangers, se déroule le tirage de la Coupe du Monde de football qu'organise la France au mois de juin. Un nombreux public de journalistes et de reporters sportifs suit très attentif les opérations du tirage au sort effectuées par un enfant et proclamées par M. Rimet.
1941, Paris occupé se distrait au stade. Pour ceux qui suivent le match sur leur poste TSF, commentaires élégants et ton détaché.
Nous sommes aujourd'hui au Parc des Princes. Nous assistons actuellement aux ultimes minutes de la finale de la Coupe des Provinces Françaises. Entre la Guyane-Gascogne d'une part, l'Île-de-France de l'autre. Je ne veux pas vous faire languir plus longtemps. Le score actuellement est en faveur de l'Île-de-France, c'est-à-dire de Paris, qui mène par 3-2 contre la Guyane-Gascogne. La partie a été très animée jusqu'ici. Tour à tour, les deux équipes ont pris l'avantage. Et je vais très rapidement vous résumer ce que fut la partie. Dès la 11e minute, une tête d'Urtiz Berea, repris par Lopez, assurait l'avantage à la Guyane-Gascogne, qui menait donc par 1-0. 20 minutes plus tard, sur un centre de Thévenot, la balle parvenait à Simoni qui, de 15 mètres environ, réussissait un très beau shot et marquait, égalisant ainsi pour l'Île-de-France. 1-0. On en était encore à ce score à la mi-temps, mais dès la 10e minute de la reprise, Ben Ali, très en forme aujourd'hui, réussissait un très beau service dans le trou, comme disent les footballeurs, c'est-à-dire entre les deux arrières, et Urtiz Berea reprenait la balle et marquait. 2-1 en faveur de la Guyane-Gascogne. La partie ensuite s'égalisa. On eut l'impression à un moment que les Bordelais avaient gagné le match, mais ils donnèrent bientôt des signes de fatigue et coup sur coup, vers la 30e minute, Simoni, reprenant un shot raté de Thévenot, égalisait pour Paris, puis, moins de 30 secondes plus tard, Paris marqué à nouveau par Thévenot. Si bien que je vous répète le score, à quelques 10 minutes de la fin, l'Île-de-France mène par 3-2. Actuellement, la balle est à peu près au centre du terrain. Les Bordelais attaquent. Rumelard vient de centrer juste devant les buts. Une tête de Vandoren écarte le ballon. Mais Brown intervient, dégage. Intervention de Lefebvre à son tour qui renvoie la balle très loin, très en avant vers Simoni. Simoni passe de la tête à Thévenot. Thévenot à la balle, il passe à son tour à Simoni qui s'est déplacé vers l'aile. Un centre de Simoni, mais évidemment il n'y a personne puisque lui-même joue avançante et qu'il s'était déplacé vers l'aile. Si bien que Girard n'a aucune peine à prendre la balle et à la dégager. Jusqu'ici, l'Île-de-France, il faut le dire, a dominé. L'Île-de-France mérite de mener par 3-2, mais les Bordelais, une fois de plus, nous ont donné un aperçu de leur réelle qualité et surtout de leur talent de contre-attaque, d'offensive brusquée et toujours très bien terminée. Attaque parisienne par Brown. Intervention de Plesiak qui prend la balle, qui évite une première fois Brown, une seconde fois, qui le feinte, qui le dribble et qui finalement donne la balle à Lefebvre, ce qui est vraiment un comble. La balle est toujours dans le camp des Bordelais. Zégo vient de la prendre, il la passe à Bellani. Bellani descend, feinte un joueur de l'Île-de-France, déplace le jeu très joliment vers Arnaudot. C'est un très beau service que va faire Arnaudot. Il a la balle, il s'apprête à shooter, mais mon Dieu, Vandoren est devant lui, il hésite, il feinte, il tourne autour, et puis finalement, il cherche à déborder, il y arrive, il passe à Lopez. Lopez ne peut reprendre la balle, Lefebvre une fois plus intervient et Lefebvre dégage. Et bien sûr cette attaque classique du style de Bordeaux, je crois qu'il y a 15 jours, Arnaudot, au lieu d'attendre l'attaque de Vandoren, ne se serait pas occupé du tout de l'arrière parisien, il serait parti droit au but, il ne serait pas occupé du tout si M. Vandoren était là ou non, et il aurait shooté. Cette tendance à temporiser semble prouver qu'Arnaudot est fatigué, d'ailleurs comme tous ses coéquipiers, les joueurs bordelais actuellement sont à bout de réserve et à bout de souffle. Attaque parisienne, qui échoue sur le dos de Bersoulet, Rosler envoyant la balle sur le dos d'un de ses coéquipiers. Immédiatement Bordeaux attaque, voici Zégo qui part, qui déborde Bordier, il est arrêté très joliment par Lefebvre, qui une fois de plus est partout et nulle part.
Pour ouvrir la série des figures de style imposées du commentaire footballistique, analyse prospective avant la compétition.
notre micro, Henri Guérin, entraîneur sélectionneur de l'équipe de France de football qui est qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde, la Coupe Jules Rimet. Henri Guérin, vous avez vu jouer beaucoup d'équipes au monde. Bien sûr, vous êtes responsable de l'équipe de France. Mais quel est votre favori pour cette Coupe du Monde 1966?
Eh bien, vous me prenez non pas de cours, parce que cette question-là m'a été posée souvent de fois depuis dans les dernières semaines qui précèdent le départ de cette Coupe du Monde. Mais enfin, tout de même, je pense que les Anglais, je vais droit au but, les Anglais jouant chez eux ont une belle chance. Maintenant, je dois dire que chaque Coupe du Monde a apporté de grosses surprises. Nous avons vu le Chili se qualifier brillamment pour les demi-finales et prendre une troisième place. Nous avons vu aussi la Tchécoslovaquie, un peu d'une façon inattendue, arriver en finale au Chili. La Suède elle-même avait fini seconde dans le championnat qu'elle organisait en 58, et la France, contre toute attente, avait terminé troisième. Je crois que, et je me souviens aussi de la Coupe du Monde de 54, où la Hongrie, grande favorite, a tout de même été battue par l'Allemagne dans ce championnat du monde.
Je crois d'ailleurs qu'en règle générale, le pays qui organise se classe toujours très bien en Coupe du Monde. Quelquefois, il la remporte, c'était le cas pour l'Uruguay et l'Italie. Il arrive souvent en finale, donc c'est une chance de plus pour l'Angleterre de l'emporter.
Acting as host for the final phases of the World Cup. I welcome all our visitors.
Je suis très heureuse d'être ici parmi vous, vient de dire la reine, et elle ajoute, je souhaite la bienvenue à toutes les délégations, et je déclare ouverte la 8e Coupe du Monde de football.
Deuxième figure imposée, justification de la défaite avant le match.
Alors Robert, c'est un peu le problème des Mexicains devant les Français. La virtuosité technique des Uruguayens risque de paralyser nos défenseurs.
Et là, il est exact que la virtuosité technique étalée par les Latins est extrêmement gênante pour nos défenseurs. C'est certain qu'il va falloir essayer aussi d'empêcher cette circulation de balles.
Et alors maintenant en attaque.
Ah oui, alors là pour moi c'est le gros problème, vous voyez. C'est le gros problème en ce sens que c'est la partie, si vous voulez, qui pour moi a été la moins satisfaisante. Non pas que l'on ait manqué de bonne volonté, mais enfin...
Pas de collectif.
Ah, puis surtout aucune aide au porteur du ballon. On a laissé le porteur du ballon prendre lui-même toutes les décisions sans lui proposer quoi que ce soit.
Ah oui. Alors, De Bourgoin, c'est une bonne chose. C'est un bon technicien, il sait garder la balle, il connaît les Uruguayens.
Je crois, je pense. Et puis alors, je pense que... la rentrée de Simon aussi doit apporter quelque chose, car c'est un garçon qui
il joue bien sans ballon, hein.
Très disponible. Oui, sans ballon, je crois qu'il apportera quelque chose.
Alors, autrement dit, nous jugeons l'équipe de France que ce soir, c'est ça?
Je préférerais, je voudrais pouvoir ce soir avoir un grand sourire avant de m'en aller.
Ben, nous aussi, oui.
Troisième figure imposée. L'équipe de France est éliminée, mais sort de la compétition la tête haute.
Pour la 8e Coupe du Monde, c'est sans doute l'un des matchs les plus passionnants que l'on a vécu hier soir lors de la rencontre France-Uruguay. Devant l'Uruguay, la France s'est battue jusqu'au bout. Elle a pratiquement mené le jeu de bout en bout, à commencer par la 16e minute où De Bourgoin réussissait pour la France un pénalty.
Un joueur qui est en position derrière gauche manque cette balle, tombe au moment où il voulait la dégager. Et la balle revient maintenant dans les pieds de Djorkaeff qui parvient quand même à la dégager pour servir Cortés. La balle revient immédiatement dans le camp français. Attention, Bonnel, Simon qui s'impose là au dépens avec Bosquier. Bosquier, très bonne ouverture sur Hervé. Hervé va-t-il récupérer la balle avant qu'elle ne sorte? Oui, en position des Louvrois. Trouve Buzinski en point d'appui. Lequel Buzinski remet immédiatement la balle sur Hervé. Très bon. Oh là là. L'arbitre a mis penalty. Penalty, Malin Serra ayant fauché Hervé dans la surface de réparation. Le penalty est logique encore que peut-être juste à la limite. Soyons le vite.
Non, alors là, Paul, me suivi l'analytique. J'ai vu l'action. Je crois que l'arbitre a jugé dans l'esprit. Car l'accrochage sur Hervé, à mon sens, a été fait juste à l'extérieur de la surface de réparation. C'est exactement comme sur Grondel autour, mais c'est bien à la limite, c'est tout au moins sur la ligne. Et dans l'esprit, donc justement, l'arbitre a estimé que puisqu'il y a doute, eh bien, il accorde le pénalty. Et c'est parfaitement justifié car le chemin du but était largement ouvert à Hervé. Et voilà qui nous a confirmé combien les redoublements de passes étaient décisifs. Et voici maintenant la responsabilité du pénalty. Ce n'est pas de pourquoi, vous pensez, le gardien a bougé. Mais il est temps. Et 1-0 pour la France. Alors là, écoutez, c'était absolument magnifique. Alors écoutez, magnifique. Parce que ce redoublement de passe, tenez-vous bien, vous savez par qui il a été fait? Par Buzinski. C'est même pas un inter. Donc ça prouve que cette équipe de France qui était figée l'autre jour, qui était contractée. Et bien maintenant, c'est Buzinski qui, au passage, rappelons-le, ne joue pas bétonneur aujourd'hui. Mais joue défense de ligne. Alors certes, c'est les uns qui jouent bétonneur. Buzinski s'est intégré, a redonné Hervé extrêmement rapide, extrêmement prompt. Et vous voyez cette défense uruguayenne, on a trouvé une faille dedans, on a trouvé un trou. 1-0 pour l'équipe de France. Et bien vous savez, vraiment, ça fait plaisir parce que l'autre jour, je vous le disais, nous vous le disions tous, qu'il soit si mauvais, c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne s'explique pas. Eh bien, les voilà, la balle est repartie. Très bien joué maintenant. Les dédoublements de passe. Simon qui reprend cette balle, qui évite un adversaire, mais qui la laisse involontairement. Mais le pressing français a interdit aux Uruguayens de trouver une ouverture.
À la 27e minute, sursaut des Uruguayens par Rocha qui va égaliser.
Malin Serra qui prend cette balle à la limite de la surface de réparation française. Attention, ça peut être dangereux. Les Uruguayens eux aussi se massent maintenant devant nos buts. Balle en cloche. Remise de la tête par Rocha sur Sacia. Maintenant, voilà, c'est Caetano qui reprend cette balle. Hervé, oh là, qui adresse une très bonne balle à un de ses adversaires. Fort heureusement, celui-ci fait une fantaisie et la balle est dégagée. In extremis, Rocha. Rocha, Vieira. Vieira en position d'ailier droit qui arrive trop tard sur cette balle. Attention. Oh là là. Très bien joué, vite. Ah, un but splendide. But splendide de Vieira qui, lui, a redonné la balle dans de bonnes conditions. Et alors que Hervé, lui, franchement, l'a redonné à l'adversaire, alors là, de manière inconsidérée, autant Hervé avait été brillant sur le raid qui amena le pénalty français, autant Hervé a été décevant. En effet, il s'est affolé. Il y a eu, il faut le reconnaître, un moment de flottement dans la défense française. Tout est à refaire, un but partout. Et bien maintenant, on peut donc dire que les Uruguayens ont redressé une situation compromise. Mais de toute façon, les 25 premières minutes nous ont confirmé une chose. L'équipe de France est décidée à prendre tous les risques. Et rien que pour ça, nous devons la féliciter.
La fin du match va survenir sur le score de 2-1 en faveur de l'Uruguay. Pour la 8e Coupe du Monde de football, on peut dire que tout est terminé pour la France. Voici les dernières minutes du match.
L'arbitre laisse ses actions se développer, très bien joué. Et toujours, toujours en avant de Bourgoin. Et voici, la balle va se perdre là-bas, très loin, très loin, très loin, dans les virages de Waikiki, dans le dernier virage de Waikiki. Et je vois Paul qui chronomètre, une minute. Je regarde aussi les aiguilles de notre chronomètre. Est-ce que l'arbitre a décompté le temps? Oui, les arrêts de jeu, comme dit Jean, il a raison. D'autre part, cette indication de l'arbitre, M. Galbal, le Tchécoslovaque, qui a fait savoir aux Uruguayens que tous ces petits procédés, ça ne marchait pas, que ce n'était pas normal et qu'en conséquence, quand ils agissaient ainsi, il a arrêté son chronomètre et maintenant il le remet en marche, ce chronomètre. Mais sait-on jamais, beaucoup d'arbitres font de telles menaces et ils ne décomptent pas le temps quand même. De toute façon, les Uruguayens n'ont plus qu'un homme, deux hommes en attaque. Ils usent simplement de la contre-attaque et vraiment, il est regrettable, vraiment regrettable que ce tir de Hausser tout à l'heure ait été écrasé sur la barre transversale. Ces tirs de Bourgoin au début de la seconde mi-temps, lorsqu'on aurait dû égaliser, c'est le coup de sifflet final. Eh bien, ce coup de sifflet final sanctionne, à mon sens, l'élimination de la France de cette Coupe du Monde. Tout au moins, elle disputera son match contre l'Angleterre, mais il ne faut plus espérer voir figurer les tricolores en quart de finale. Mais c'est au moins une occasion de nous féliciter de n'avoir pas été trop sévères l'autre jour lorsqu'ils étaient paralysés dans le stade de Wembley devant les Mexicains. On dira que ce sont les modifications apportées à l'équipe qui ont été à l'origine d'une transfiguration des tricolores. Pas du tout. Les tricolores aujourd'hui étaient ce que nous les avions connus lorsqu'ils étaient au stage de Peeble. Il ne s'agit pas de faire de discrimination entre les uns et les autres. Ils étaient animés d'une magnifique ardeur comme ils l'étaient d'ailleurs l'autre jour. Mais aujourd'hui, ils étaient décontractés. Ils savaient qu'ils n'avaient rien à perdre. Et pour l'instant, je crois que c'est le symbole de cette rencontre. D'une rencontre qui en définitive nous réconcilie avec l'équipe de France et une rencontre qui a été disputée de façon extrêmement correcte. Et Paul a raison avec le football, quand on a bien joué au football.
dans l'équipe de France de foot, vivement qu'ils reviennent. Avec eux, ce serait parfait. Raymond Coppin, Mimoun, puis Anthony Fontaine, ça me plaît plus comme ça me plaisait.
Et nous allons laisser le soin à un Africain footballeur professionnel à l'association sportive de Cannes, Abdoul Yansane. Nous allons donc lui laisser le soin de tirer la conclusion de cette 8e Coupe du Monde qui fut une grande compétition.
L'équipe qui a manifestement le plus dessus, c'est le Brésil. C'est dommage d'abord pour le football brésilien, mais je crois qu'ils se ressaisiront. Pour ce qui est des équipes, il faudrait penser d'abord à l'équipe anglaise qui, ma foi, à créer le football, qui maintenant vient de gagner cette Coupe du Monde. Et d'ailleurs, vu ces derniers résultats, ça a été confirmé en Coupe du Monde. Ils ont eu une défense qui a été très solide, bien que l'attaque ait été un peu faible. Mais la défense étant très solide, ils sont comportés le mieux du lot. Et finalement, ça a été la meilleure équipe.
C'était Rétro, une coproduction INA Radio France. Une émission d'Arnaud Laporte, mixage Claude Jubier, réalisation Annie Flavel, avec des documents INA de 1938, 1941, 1965 et 1966, collectés par Florence Lucet.
C'était Rétro, le football sans l'image. Une émission d'Arnaud Laporte, diffusée pour la première fois le 14 juin 1992.